On l'appelle la jumelle infernale de la Terre et vous la connaissez aussi sous le nom d'étoile du berger. Vénus est en ce moment au cœur de l'attention des agences spatiales américaines et européennes qui viennent en effet de sélectionner 3 missions pour aller explorer notre plus proche voisine. La découverte récente d'une molécule potentiellement liée à la présence de vie dans l'atmosphère de Vénus a également ces derniers temps relancé des conjectures sur la possibilité de trouver une vie extraterrestre dans notre système solaire. Mais qu'en est-il vraiment ? Longtemps délaissé au profit de Mars, Vénus suscite donc en ce moment un regain d'intérêt. C'est l'occasion donc de vous proposer aujourd'hui un petit voyage dans cet environnement très particulier de la planète pour comprendre comment un monde similaire au nôtre au départ a pu se retrouver avec un destin aussi différent. Pour en parler, je reçois Alice Le Gall et Emmanuel Marc. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes tous les deux chercheurs au LATMOS, le laboratoire atmosphère et observation spatiale. Emmanuel Marc, vous êtes maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin et responsable du spectro-imageur VENSPEC-U de la mission Envision qui va donc s'envoler vers Vénus. Et puis Alice Le Gall, vous êtes planétologue, vous également à l'université de Versailles-Saint-Quentin. On va se retrouver donc dans un instant pour faire le tour de Vénus et vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr et sur le mot-clé LATAC. 14h30, on vous propose une rediffusion de Camille Passauvert consacrée aux calanques qui doivent faire face à la surfréquentation. 14h45, suite de notre série de reportages signée Annel Verzo dans la Meuse autour du projet de centre de stockage profond de déchets radioactifs. Et puis enfin dans la chronique de reporters, Lauriane Cholez va nous parler de la mobilisation sur le plateau de Saclay où des terres sont menacées par la construction de la future ligne de métro. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Anna Massardier avec à l'aide technique Rémi Sistiaga.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Le 12 février, les Soviétiques ont lancé un nouveau satellite. Rien de nouveau jusqu'ici. Mais de ce satellite est partie en direction de Vénus une fusée qui se rapprochera de l'étoile du berger après un voyage de quelques 100 millions de kilomètres. Allons-nous connaître le secret de Vénus qui s'entoure d'une atmosphère nuageuse assez semblable à celle de la Terre? Apprendra-t-on que la vie est en train d'y suivre l'évolution suivie par notre planète? Que dans ces brumes, les premiers végétaux y sont nés? À moins qu'au milieu de tornades gigantesques, beaucoup plus en arrière, 1500 millions d'années peut-être, la vie n'en soit encore qu'à ses premiers balbutiements, et que ne commence à jaillir du monde minéral la toute première trace d'organismes vivants avec les premiers virus. Vénusic nous dira-t-il tout cela?
Voilà, c'était carrément la préhistoire des missions spatiales en 1961 avec le lancement de cette sonde russe vers Vénus. Et cette planète donc qui suscite aujourd'hui un regain d'intérêt de la part des astronomes. Pour quelle raison? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec vous, Emmanuel Marc et Alice Le Gall. On commande d'abord cette archive de 1961 parce qu'elle dit plein de choses sur la façon, à l'époque, avec laquelle on imaginait justement Vénus, Alice Le Gall.
Oui, tout à fait. À l'époque, on imaginait la possibilité d'une vie sur Vénus. On n'avait pas encore compris l'environnement infernal qui régnait à sa surface. Hein. Donc je rappelle quand même 470 degrés.
En moyenne.
En moyenne. Il n'y a pas beaucoup de variations de température.
Ça change peu, oui.
Une pression qui est l'équivalent de la pression sous 900 mètres d'eau, donc 90 fois plus élevée que la pression à la surface de la Terre. Donc effectivement, à l'époque...
On ne le savait pas, ça, en 1961?
Non, on ne le savait pas. On venait de mesurer... une température de 300 degrés depuis un des radiotélescopes terrestres et donc on se demandait si c'était la température de la surface ou un effet atmosphérique qui était à l'origine de cette mesure. Et c'est que en 1962 véritablement avec la sonde Mariner 2, la sonde américaine qui pour la première fois a survolé Vénus, d'ailleurs c'était le premier survol d'une planète autre que la Terre,
ouais,
de toute l'histoire de l'exploration spatiale, qu'on a pu confirmer effectivement le fait que les températures de la surface de Vénus étaient absolument infernal.
Ouais, Emmanuel Marc, donc on fantasme beaucoup, mais c'est normal parce que les connaissances sont pas aussi abouties technologiquement à l'époque qu'aujourd'hui. Donc on imagine vraiment une planète très différente de celle qu'on connaît maintenant. Hein.
Ouais, effectivement, si on avait fait cette émission il y a, mettons, 70 ans,
ouais,
je vous aurais affirmé très doctement que Vénus étant recouverte d'épais nuages, ces épais nuages sont bien sûr constitués d'eau, et ouais, que sous ces épais nuages d'eau se trouve une planète tropicale, avec des calculs tout à fait exacts qui auraient montré que si on plaçait la Terre à l'endroit exact l'ouest où se trouve l'orbite de Vénus, elle aurait une température de l'ordre de 60 à 70 degrés à peu près,
ouais.
Donc plus chaud que la Terre, nettement, mais pas complètement hostile à toute forme de vie. Et donc on aurait pu imaginer, on va dire, des océans extrêmement acides, parce qu'on savait déjà qu'il y avait beaucoup de dioxyde de carbone, donc on imaginait des océans d'eau pétillante ou des choses comme ça,
ouais.
Avec des formes de vie végétales extrêmement abondantes. Et la reine de la science-fiction à l'époque, quand on voulait chercher des extraterrestres, c'était plutôt des Vénusiens que des Martiens.
Absolument.
Dans les romans pulp des années 40.
Exactement. Ben, les choses se sont un peu inversées aujourd'hui, sur l'intérêt en tout cas qu'on porte à ces deux planètes Mars et Vénus, puisque ben, c'est vrai que les missions martiennes, alors là, il y en a énormément, et que Vénus est vraiment à la traîne, hein, Alice Le Gall.
C'est ça, au fur et à mesure qu'on a compris l'inhospitalité de Vénus, l'intérêt pour cette planète, notamment l'intérêt américain, s'est détourné au profit de Mars. Hein.
Ouais.
Et alors les Européens ont quand même envoyé une mission vers Vénus et les Japonais aussi, mais les Américains rien depuis 1995 tout de même.
Ouais.
Et finalement aujourd'hui on a ce regain d'intérêt qui est peut-être causé par les mêmes par aussi, le fait justement cette inhabilité de Vénus qui a fait qu'on s'est détourné d'elle à un moment, c'est aujourd'hui peut-être la raison pour laquelle on se retourne vers Vénus pour essayer de comprendre comment elle a pu si mal tourner, comment elle a pu prendre ce virage climatique absolument dramatique, et oui. Notamment est-ce que sur Terre, le réchauffement climatique qu'on connaît peut nous amener vers la même trajectoire.
Ouais. Mais quand on dit mal tourner, c'est très anthropocentré finalement, non ? Comme façon de juger cette planète qui a vécu son destin. Bon, voilà.
C'est centré vers la vie,
ouais. Hein,
c'est pas seulement la vie humaine, hein, c'est en tout cas toute forme de vie qu'on connaît. Ne se sentirait pas très bien accueilli sur Vénus.
Emmanuel Marc, est-ce qu'on pourrait pas dire que finalement, parce qu'on parle toujours du duo de jumelles Vénus et la Terre, qu'il y en a finalement trois des sœurs, c'est la Terre, Mars et Vénus. Les trois ont quand même un passé très similaire, non ?
Alors oui, les trois exemples de planètes voisines et assez semblables dans le système solaire que sont Vénus, la Terre et Mars. Alors je nuancerai quand même en disant que Vénus et la Terre se forment vraiment un groupe et Mars vraiment est un cas plus à part pour des raisons de taille simplement.
Ouais.
Vénus, c'est 80% de la masse de la Terre à peu près, donc c'est vraiment deux objets, on va dire vraiment
très
similaires, presque identiques au niveau de on va dire de la composition d'ensemble, quoi. Ce sont des planètes de cette masse-là à peu près, formées à partir de matériaux de base similaires. Mars, c'est seulement 10% de la masse de la Terre à peu près. Donc on est dans une autre classe d'objets, intermédiaire, on va dire, entre des objets de taille lunaire et puis les objets vraiment comme Vénus et la Terre. Et donc les différences qu'on constate entre Mars et la Terre, elles existent, elles sont quand même relativement nombreuses, on les explique de façon beaucoup plus naturelle finalement, par le fait que Mars a commencé avec un inventaire moindre des différents éléments et une capacité moindre à les retenir. Donc quand je parle d'éléments propices, c'est effectivement la vie, ce qu'on appelle nous les éléments volatiles, donc ceux qui peuvent se trouver sous forme liquide ou vaporisée. Et Mars a une capacité moindre à en avoir un stock initial d'une part et à les retenir d'autre part.
Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un passé très lointain, c'est-à-dire vraiment au moment de la formation, il y a 4,5 milliards d'années, de ces trois planètes qui se ressemblent beaucoup quand même, Alice Le Gall ?
Oui, effectivement, on pense qu'au moment de leur formation, tous, il y a 4,5 milliards d'années, ont accueilli de l'eau liquide, peut-être des océans d'eau liquide à leur surface. Et que pour des raisons différentes, comme l'a dit Emmanuel, sur Mars, cette eau s'est échappée, sans doute en lien avec cette gravité réduite.
Oui.
Et sur Vénus, alors là, c'est encore une question en suspens, mais sur Vénus, peut-être que le fait que Vénus soit légèrement... plus proche du Soleil que la Terre, a joué un rôle dans cette évaporation de l'eau qui a dû être présente à sa surface, donc au même moment qu'elle était présente sur Terre et que la vie d'ailleurs est apparue sur Terre.
Mais justement, les températures dont vous parliez, là, de 450 degrés, voire 500 degrés à la surface de Vénus, ce sont des températures qui existent depuis le tout début du système solaire ?
Alors, on a plusieurs scénarios en fait pour l'histoire passée de Vénus. On sait que Vénus a commencé plus humide qu'elle n'est actuellement, mais entre nous, c'est pas bien difficile. Si on prenait toute la vapeur d'eau qui reste encore dans l'atmosphère de Vénus et qu'on la condensait à sa surface, on aurait un océan global de 3 cm de profondeur seulement.
Oui, pas beaucoup.
Pour la Terre, on a en moyenne plusieurs kilomètres, donc Vénus est actuellement 100 000 fois plus aride que la Terre.
Oui.
Si on remonte dans le passé, on a des éléments qui permettent d'affirmer que Vénus était plus humide, mais à quel point plus humide, ça fait encore débat. Est-ce qu'elle a commencé avec autant d'eau à peu près que la Terre, ou est-ce qu'elle a déjà commencé en étant beaucoup plus sèche que la Terre ? Plus humide que ce qu'elle est maintenant, mais ils sont dans un état intermédiaire. Ça, c'est encore une question qui est débattue. Et suivant justement la quantité d'eau initiale, on a des trajectoires initiales d'évolution de Vénus qui sont assez différentes.
Mais là, avec 450 degrés, impossible d'avoir des océans liquides sur une planète
oui.
comme ça.
Hein. Donc, si jamais
l'eau s'évapore forcément tout de suite. Hein.
Mais voilà. ce qu'on sait, c'est qu'il y a 4,5 milliards d'années, le Soleil était 20 à 30 fois moins lumineux. Mmh. Donc les températures étaient... Voilà. En pourcentage, oui, ouais, pardon. Ouais. J'ai dit quoi ? 20-30% moins lumineux. Donc les températures étaient quand même plus clémentes. Et ouais. C'est sans doute cette augmentation progressive de la luminosité du Soleil qui a fait qu'à un moment, l'eau des océans de Vénus, s'il y en avait, a commencé à s'évaporer. Et on sait que la vapeur d'eau, hein, c'est un gaz à effet de serre très efficace qui, allié au gaz carbonique déjà présent dans l'atmosphère de Vénus, est venu renforcer cet effet de serre, qui finalement s'est emballé et a conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui.
Puisque vous parlez de luminosité, Emmanuel Marc, Vénus, c'est la planète la plus lumineuse, justement, dans notre ciel, celle qu'on voit le mieux à l'œil nu ?
Oui, celle qu'on voit le mieux, même dans un ciel très urbain, c'est l'objet qui brille le plus après le Soleil et la Lune dans le ciel de la Terre.
Ouais.
Donc, quand elle est visible, c'est pas systématique du fait de sa proximité au Soleil, justement.
Ouais.
On la voit quelques mois par an, on va dire soit le matin, soit le soir, autour des 2 heures qui précèdent ou qui suivent le lever ou le coucher du soleil.
Ouais.
Mais pendant ces moments-là, effectivement, on ne peut pas la rater dès que le ciel est dégagé.
C'est la plus proche de nous également ?
Quand elle s'approche au plus près, c'est la plus proche de nous. Après,
ouais.
Bon, tout le fait, bien sûr, mécanique des orbites fait que...
Et au plus près, c'est combien de milliards de kilomètres ?
De millions seulement.
De millions ?
Voilà, 40 millions.
40 millions.
Plus près, 40 millions, c'est-à-dire 120 fois à peu près la distance qui nous sépare de la Lune. Donc
c'est,
après la Lune, c'est vraiment ce qu'on a de plus près. C'est pour ça d'ailleurs que c'était la cible des premières sondes spatiales après la Lune, dès les années 60.
Et le Soleil, c'est 150 millions,
hein,
justement. Donc on oublie complètement les milliards. Alors justement, la NASA prévoit le lancement prochain de 2 missions spatiales vénusienne. Il y aura aussi l'Europe, on va en parler dans un instant, puisque ça vous concerne directement. On va écouter Bill Nelson, l'administrateur de la NASA, qui faisait son annonce il y a quelques jours.
Nous avons deux nouvelles missions à vous annoncer. Ces deux missions sœurs visent toutes les deux à comprendre comment Vénus est devenue un monde semblable à un enfer capable de faire fondre le plomb à la surface. Ils offriront à l'ensemble de la communauté scientifique la possibilité d'étudier une planète sur laquelle nous ne sommes pas allés depuis plus de 30 ans. Nous espérons que ces missions vont nous permettre de mieux comprendre comment la Terre a évolué et pourquoi elle est actuellement habitable quand d'autres planètes ne le sont pas.
Voilà, Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. Bah oui, 30 ans quand même loin de Vénus, il faut se rattraper parce que la présence martienne, elle, on la connaît. Mais là, il y a vraiment beaucoup de choses. Pour la connaissance scientifique d'ailleurs, c'est extrêmement important d'y retourner.
Oui, effectivement, parce que toutes ces différences de destin entre Vénus et la Terre sont encore très mal comprises. On a plusieurs scénarios. Une explication qui avait été donnée par Alice sur une façon possible que Vénus a eu de se différencier de la Terre.
Oui.
Mais si cette trajectoire d'évolution, si cette divergence a eu lieu, on ne sait pas quand elle a eu lieu. Est-ce qu'elle a eu lieu à un stade extrêmement précoce de l'évolution du système solaire ? Donc, on va dire juste après la formation, ou même déjà pendant la formation de la planète, ou est-ce qu'elle a lieu de façon relativement tardive ? Et quand on dit tardif, la date la plus récente pour cette divergence qui est compatible avec les observations, c'est entre guillemets seulement 500 millions d'années.
Oui, c'est ça.
Ce qui, à l'échelle du système solaire,
c'est
pas énorme. C'est les 10 derniers pourcents de l'histoire de la vie, de l'histoire du système solaire.
On va dire. Allez, on revient sur ces différentes missions. Qu'est-ce qu'on va justement explorer autour de Vénus ? C'est le sujet de cette Terre au carré. Vos questions, amis auditrices et auditeurs, sur franceinter.fr.
Milonga, dime si hay algo que pueda hacerme feliz. Llévame a tu país. Vento vai depressa e vem a me dizer o que eu quero entender, o que eu quero entender. Vejo minha vida imensidão do mar, como se chegar lá, como se chegar lá. Se chegar.
Milonga, c'était la voix de Dom La Nera.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Pourquoi une planète qui, a priori, était assez semblable à Terre, même masse, même dimension, un peu plus près du Soleil, mais pas tellement plus après tout. Eh bien, pourquoi une telle planète a évolué si différemment à sa surface? Pourquoi son atmosphère est si différente? Pourquoi elle est tellement hostile à la vie? Eh bien, comprendre cela, c'est aussi comprendre un peu mieux connaître la Terre, disons.
Voilà, tout est résumé dans la voix d'André Brahic. C'était en 1985, au moment de l'envoi de la sonde Vega 2. On en parlera avec vous dans un instant pour évoquer donc notre planète jumelle, celle qui a mal tourné, comme vous le disiez tout à l'heure. Alice Le Gall, Emmanuel Marc, donc vous êtes nos invités pour parler des différentes missions là qui vont démarrer dans les prochaines années, avec plein de questions des auditeurs. Aurélie sur franceinter.fr demande: quand on parle de vie sur d'autres planètes, il s'agit d'une vie compatible aux spécificités de la dite planète? Point d'interrogation. Emmanuel Marc, pour lui répondre.
Alors, c'est une question dont la réponse est assez difficile à apporter, parce que, le seul exemple de vie qu'on connaisse, étendue, c'est celle de la Terre. Et donc, on a toujours tendance à extrapoler nos schémas terrestres lorsqu'on recherche la vie extraterrestre. Et donc, a priori, on cherche des formes de vie qui vivent dans l'eau, qui ont besoin donc d'eau liquide pour dissoudre leurs différents composés.
C'est quoi les ingrédients indispensables à la vie telle que nous la connaissons? Alors, l'eau liquide?
L'eau liquide, une source d'énergie, ouais, quelle qu'elle soit, a priori basée sur un déséquilibre. Soit un déséquilibre chimique, soit un déséquilibre de lumière, entre lumière et obscurité, enfin avoir une source lumineuse. Faut se placer à l'interface entre deux choses différentes pour profiter de ces différences pour après récolter différents éléments ou récolter une source d'énergie. C'est comme ça que la vie terrestre fonctionne dans tous les environnements, on la connaît, que ce soit avec une source d'énergie chimique ou lumineuse ou autre encore. Et donc, ce qu'on cherche, voilà, c'est des déséquilibres dans un milieu propice à la chimie riche, et a priori le solvant, comme on dit, donc le milieu le plus propice à la chimie complexe, c'est l'eau.
Ouais. Alice Le Gall, pour compléter justement la question d'Aurélie, celle de Loïc, qui demande si justement on pourrait imaginer un organisme s'adaptant à une pression énorme comme celle donc de Vénus, et à une très forte chaleur, toujours comme celle de cette planète.
Ça aussi, c'est une question compliquée. J'imagine qu'on peut tout imaginer. Après, on a tendance à chercher ce qu'on connaît déjà. C'est déjà compliqué de chercher ce qu'on connaît déjà. Donc de chercher, en l'occurrence sur Vénus, les conditions que l'on sait propice à la vie telle qu'on la connaît. En l'occurrence, ça se passe pas à la surface, ça se passe pas justement à ces pressions énormes, ça se passe plutôt à 50 km au-dessus de la surface, dans les nuages, où là, on retrouve des conditions agréables, une pression qui est sensiblement celle que l'on trouve à la surface de la Terre, et une température autour de 20 degrés. Donc il y a...
Qu'est-ce que vous laissez entendre? Qu'on pourrait trouver des traces de vie dans les nuages
vénusiens? Je ne vais pas m'avancer à ça.
Si,
dire que si on veut chercher la vie telle qu'on la connaît, on va la chercher là où les conditions sont telles qu'on les connaît, et ce sera dans les nuages. De là à dire qu'il y a de la vie, des bactéries dans les nuages qui se seraient réfugiées, justement, c'est... Non.
Bon, en tout cas, il faut quand même, Emmanuel Marc, évoquer cette publication de l'année dernière qui a fait quand même beaucoup parler d'elle, puisqu'une équipe avait annoncé avoir détecté de la phosphine dans les nuages de Vénus. La phosphine, c'est quoi, justement?
La phosphine, c'est l'équivalent de l'ammoniac en remplaçant l'azote par du phosphore. Donc c'est une molécule simple, un atome de phosphore, trois atomes d'hydrogène, et qui est qu'on trouve dans le système solaire, mais dans les atmosphères des planètes géantes, plutôt. Donc sur Jupiter, Saturne, on en trouve là de façon non controversée. Et sur Terre, on le mesure aussi à l'état de trace. Et sur Terre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est associée
à des micro-organismes.
Voilà.
Donc tout le monde s'est emballé l'année dernière en expliquant que des organismes vivants pourraient donc peut-être exister sur Vénus. Ça a suscité énormément de débats dans la communauté scientifique. On en est où un peu plus d'un an après cette annonce?
Alors,
est-ce que c'est toujours une piste intéressante, valable, ou elle est complètement rejetée?
Complètement rejetée, non. Il y a eu des réanalyses, par exemple des analyses in situ faites par les sondes pionnières américaines, qui sont compatibles, c'est pas une preuve, mais compatibles avec la présence de phosphine.
Oui.
Il y a eu énormément de recherches dans les archives d'observations passées de Vénus pour voir justement si la phosphine se trahissait dans d'autres domaines de longueur d'onde ou d'autres façons de mesurer. Pour l'instant, sans succès. Donc je dirais que l'hypothèse de phosphine semble moins probable qu'elle ne l'était, on va dire, en septembre, mais pas complètement enterrée.
Bon, Alice Le Gall, on laisse une petite porte ouverte à la vie dans les nuages vénusiens?
Oui, et y a déjà le problème de la détection de la phosphine. Ensuite, le lien avec la vie n'est pas évident non plus, parce qu'il y a d'autres façons de former de la phosphine qui ne font absolument pas intervenir la vie.
Ouais. On va écouter quelques petites propositions sur les étrangetés vénusiennes. C'était sur YouTube, on les a captées, on vous les propose.
Voici d'autres trucs marrants sur Vénus, l'une des voisines les plus proches de la Terre. La planète a l'orbite le plus circulaire de toutes les planètes du système solaire. Paradoxalement, un jour sur Vénus est plus long qu'une année. En fait, la planète met 243 jours terrestres à tourner sur elle-même, alors qu'elle réalise un tour autour du Soleil en 224 jours terrestres. Les rafales de vent sur Vénus peuvent atteindre des vitesses incroyables. Dans la couche de nuages de l'atmosphère, elles vont jusqu'à 725 km par heure. C'est plus rapide que la plus vive des tornades sur Terre. La planète chaude tourne dans le sens opposé au Soleil et à la plupart des planètes du système solaire. Ce phénomène s'appelle la rotation rétrogradée. Elle est certainement liée à une collision avec un énorme corps spatial, comme un astéroïde.
Alors ça, c'est vraiment une étrangeté, effectivement, qui revient dans les questions d'ailleurs de nos auditeurs sur franceinter.fr. C'est la rotation. Alors c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, en l'occurrence pour Vénus, et c'est le contraire dans le système solaire. Ouais. A priori, c'est ça. Et Martial demande quelles sont les hypothèses concernant cette rotation particulière de Vénus. Alors Alice Le Gall.
Oui, effectivement, sur Vénus, le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Alors, on a, c'est vrai, longtemps, comme on l'entendait dans le reportage, longtemps incriminé un impact,
oui,
une collision au début de l'histoire.
Ouais.
On a aussi à un moment pensé que ça pouvait être dû au freinage lié à cette atmosphère qui pourrait freiner, à un moment inverser la rotation de Vénus. Je crois que cette seconde hypothèse est complètement rejetée aujourd'hui.
Ouais. Ce serait d'une violence inouïe, en tout cas. Hein.
Oui,
j'imagine la scène.
Ça prendrait un peu de temps. Mais,
ouais.
Non, et un article relativement récent, d'ailleurs, d'une équipe française de l'Institut Mécanique Céleste du calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris a montré que finalement, avec un modèle d'évolution tenant compte à la fois donc, de la gravité du Soleil et de la perturbation liée notamment aux effets de marée de la Terre sur Vénus, pouvait en fait aboutir à, pour Vénus, une orbite qui à un moment devient un peu chaotique,
ouais,
et qui s'inverse dans son mouvement de rotation, ou alors dont l'axe de rotation bascule de 180 degrés, ce qui fait qu'elle tournait dans le même sens que les autres planètes au début,
ouais,
puis ça s'inverse comme ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est les théories les plus sérieuses, mais,
ouais,
mais la question reste ouverte.
Emmanuel Marc, ça pourrait arriver à la Terre, ça, aujourd'hui, par exemple?
Alors, a priori, non, parce que la Terre a une grande chance que Vénus n'a pas, c'est la présence d'une énorme lune par rapport à sa taille,
ouais,
et qui a comme effet majeur de stabiliser à la fois l'inclinaison de l'axe de rotation. Alors, ça ralentit légèrement la Terre sur de longues périodes de temps, parce que l'énergie des marées finit par se épuiser en fait sur la rotation initiale et de la Lune qui elle est déjà verrouillée par rapport à la Terre,
ouais,
et de la Terre qui elle continue encore à ralentir. Donc des variations aussi dramatiques, a priori la présence de la Lune nous protège de ça.
Ouais. Alors beaucoup de questions également de nos auditeurs sur les sondes se posant sur le sol vénusien eu égard à la température donc infernale, on le rappelle, en moyenne 450-500 degrés. William par exemple, ou Gilles, comment une sonde peut-elle survivre sur ce sol? Les sondes ont une durée au mieux de 4 heures je crois, dit William. À la surface de Vénus, combien de temps l'atterrisseur en cours de transfert vers Vénus doit survivre à la surface de la planète? Alors, Alice Le Gall pour leur répondre.
Pour moi, le record de survie, c'est Vénéra 13 et c'est 2 heures à la surface.
C'est pas beaucoup, hein.
La sonde, en fait, elle n'est pas si affectée que ça par la pression et la température. C'est du titane, donc on est 470 degrés, on est bien en dessous de la température de fusion du titane. En revanche, l'électronique est rapidement mise hors de service et donc, du coup, il n'y a plus beaucoup d'intérêt, quoi. Donc, au total, je crois que c'est une douzaine, je dirais, de sondes essentiellement soviétiques qui ont fini à la surface de Vénus. Certaines se sont crashées, d'autres se sont posées plus en douceur. On a quand même 4 photos prises depuis la surface de Vénus.
Mais il faut aller vite, hein. Faut sortir les appareils
rapidement. Il faut y aller vite et envoyer ça vite, mais c'est quand même impressionnant. Donc voilà, et je sais que au niveau de la NASA, il y a pas mal de projets pour essayer d'imaginer des sondes qui résisteraient plus de 2 heures.
Alors, Emmanuel Marc, racontez-nous, parce que vous travaillez sur cette mission européenne Envision, qui va démarrer quand d'ailleurs? Quand est-ce que est prévu le décollage?
Le décollage est prévu pour l'instant en décembre 2031.
Oui.
Le transfert Vénus est relativement rapide, elle arrive dès 2032 en orbite autour de Vénus.
Oui.
Après, donc, elle passe un certain temps à circulariser son orbite autour de Vénus, en frôlant à chaque passage les hautes couches de l'atmosphère, pour se ralentir, freiner et avoir une orbite de travail qui permet d'avoir une altitude pas vraiment constante, mais en tout cas qui varie assez peu et qui est nécessaire pour opérer le radar, qui est un des instruments à bord de cette sonde ensuite. Donc, le début de mission scientifique, c'est 2035.
Il y aura un atterrissage de prévu, ça va rester en orbite
Pas pour Envision.
Ouais.
Il y a un projet américain avec un atterrisseur, mais sur Envision, donc, ça reste un orbiteur, comme on dit, donc juste un satellite autour de Vénus.
Alors, 2 missions américaines, 1 européenne. Qu'est-ce qui vous distingue les unes des autres, exactement, l'européenne et les américaines?
Alors, il y a deux projets donc de mission américaine. Une qui est très différente d'Envision. Hein, donc, Envision, c'est principalement un instrument radar qui va regarder la surface de la planète et une suite de spectromètres. dans les domaines infrarouges, ultraviolets, pour examiner de façon simultanée l'atmosphère, pour vraiment voir un peu les couplages entre atmosphère et surface. Ça, c'est vraiment, on va dire, le cœur d'Envision.
Ouais.
Les deux missions américaines, donc, que sont Veritas d'une part et Da Vinci d'autre part. Alors, Da Vinci est très différente, puisque là, on est dans une mission où le cœur de la mission, c'est un atterrisseur qui va, ou plutôt une sonde de descente plus qu'un atterrisseur, qui va donc donner des mesures en une seule fois, finalement, ouais. Lors de son passage dans l'atmosphère. Donc, alors, l'atmosphère de Vénus étant tellement dense en bas, il n'y a pas la peine de marquer des gros parachutes pour être relativement freiné dans les basses couches.
Ouais.
Et tout au long de sa descente, elle va mesurer la température, la pression, la composition.
Donc ça, c'est des milliers de données qui vont être faites au passage.
Voilà, cette fois au passage, il y a un relais orbiteur qui va être là, qui devait être à la base un relais qui ne s'orbite pas. Je crois que le nouveau projet est plutôt d'avoir un orbiteur. Mais...
Et qui va prendre des photos pendant la descente, pour le contexte de la surface.
Ah, non, oui, la sonde prend des photos pendant sa descente. Oui.
Et une fois au sol, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un crash immédiat.
Je crois qu'elle n'est pas conçue pour survivre à un atterrissage.
Ils s'attendent éventuellement à ce que ça survive, mais pas très longtemps. Du coup.
Ouais. Voilà. Donc on voit vraiment des conditions extrêmement difficiles encore aujourd'hui pour arriver à pénétrer les secrets de cette planète.
Et encore, Da Vinci va se poser non pas dans les basses plaines, mais sur les hauts plateaux de Vénus, qui sont surélevés de quelques kilomètres par rapport aux plaines environnantes, et sur lesquels il fait donc un peu plus frais, avec un peu moins de pression qu'au fond des plaines.
Plus frais sur Vénus, ça veut dire quoi alors?
On perd 10 degrés par kilomètre, c'est deux fois plus que sur Terre. Donc les plus hautes montagnes de Vénus font à peu près 10 km d'altitude.
Ouais.
Donc en haut des plus hautes montagnes de Vénus, il ne fait plus que 350 degrés, 320 degrés.
Tout à fait respirable.
Ce qui est beaucoup plus respirable que les 450.
Allez, on vous retrouve dans un instant avec d'autres messages de la part des auditeurs pour ce voyage vénusien.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, rediffusion de Camille Passauvert et on part aujourd'hui dans les Calanques.
Oui, alors je ne vais pas vous faire entendre le chant des cigales d'abord parce que c'est trop cliché. Et aussi parce que la faune et la flore des Calanques ont la vie dure depuis bientôt un an. Le déconfinement au printemps dernier puis l'été ont évidemment donné des envies de nature et si possible en France, vous le savez. Si bien que les différents parcs nationaux ont été pris d'assaut. Dans les Calanques, 3 millions de visiteurs l'été dernier. C'est au moins un tiers de plus que d'habitude avec des exemples assez marquant que m'a donné François Blanc, le directeur des Calanques.
En mer, on a pu, sur un secteur qui permet de basculer de Marseille vers les Calanques sauvages, sur lequel il y avait un bateau toutes les 12 secondes. Donc voilà, pour vous dire, un niveau de fréquentation qui est tout à fait énorme, démesuré, donc des petites plages, car souvent les plages des Calanques sont de petite taille. On pouvait avoir jusqu'à 1200 personnes avec deux queues où les gens faisaient la queue pour rentrer à l'eau. Donc on est sur des configurations qui sont tout à fait inhabituelles et qui évidemment dépassent la capacité d'accueil du milieu.
La rançon du succès, comme on dit, parce que tout ce passage, ça fait donc des dégâts. Petit tour d'horizon, cette fois avec Loïc Panzani, directeur de l'association Naturoscope à Marseille.
Il y a eu forcément des dépôts d'ordures, du piétinement et surtout des gros problèmes d'accès routier, donc des bouchons phénoménaux pour aller sur les différents sites pour se garer, des problèmes sanitaires liés aux personnes qui font leurs besoins forcément en sortant de la voiture et compagnie.
Charmant, n'est-ce pas?
Ah oui, ça donne envie.
Des déchets de tout type qui tombent dans l'eau et polluent, des voitures qui se garent sur des plantes pourtant fragiles, des gens qui marchent sur les frigates typiques de la garrigue littorale. C'est un buisson qui pousse très lentement, il peut mettre 100 ans pour faire un mètre de diamètre. Ou sur l'astragale, plante emblématique des Calanques, puisque c'est là qu'il y a un tiers de sa population mondiale à l'astragale. Lorraine Keller est spécialiste de l'astragale. Elle est chargée de mission du projet Life Habitat Calanque.
En fait, on a vu vraiment un double effet. C'est-à-dire que pendant le confinement, on a vu quelques pieds d'astragale qui commençaient à se développer. C'est une espèce qui pousse très lentement, mais qu'on voyait déborder un petit peu sur les sentiers. Donc on s'est dit, plutôt bénéfique. Et en fait, dès la fin du confinement, et donc effectivement cette hyper surfréquentation, là on a vu des dégâts, donc pas mal de branches cassées. Et au-delà de ça, on a aussi beaucoup de gens qui, en sortant des sentiers, l'ont piétiné. Notamment nos plants qu'on avait plantés l'année dernière. On sait qu'on a eu des dégâts sur ces plants-là, parce que les gens les ont piétinés aussi, parce qu'ils sont tout petits.
Mais la nature est bien faite et tout n'est pas perdu selon elle, à une condition cela dit.
Heureusement, le patrimoine naturel a une capacité de régénération qui est quand même assez importante. Mais par contre, il faut que la pression elle baisse. On sait que ce niveau-là de fréquentation avec ce type de comportement, s'il perdure, c'est une catastrophe.
D'où les mesures que le Parc National des Calanques est en train de mettre en place. Il anticipe les semaines et les mois à venir, hein, sachant qu'il y a déjà beaucoup de monde d'ailleurs. Alors, les visiteurs pourront par exemple connaître en temps réel le nombre de personnes sur place. Il y aura même des photos de lieux bondés pour parfois tenter de les décourager. Sentiers aménagés et ultra balisés. Accès et stationnement réglementés pour les voitures et éviter la pagaille. Mais des élus là demandent plus de transports en commun pour compenser. Et puis, côté mer aussi, ça va changer avec un petit peu plus de vigilance sur les kayaks qui ont tendance à un peu débarquer là où ils veulent, et aussi une réglementation sur le mouillage des bateaux.
De façon à protéger les herbiers de Posidonie, pour interdire le mouillage direct sur les herbiers, donc inciter le mouillage sur des milieux qui sont plus robustes, donc notamment des milieux sableux. Et puis, lorsqu'on sera sur des zones d'herbiers, eh bien l'idée, et ça ce sera pour l'été suivant, de mettre en place des balises, des bouées, avec mouillage obligatoire sur ces bouées.
Et François Blanc n'exclut pas non plus un système de quotas de visiteurs. Ils vont tester sur deux plages cet été, mais l'idée n'est pas du tout non plus d'interdire, hein, ou d'empêcher de profiter de ces lieux.
On cherche à apaiser cette fréquentation et on compte sur la responsabilité de chacun.
Confirmation de Loïc Panzani du Naturoscope, c'est une question d'éducation, de prise de conscience.
Là, on est quand même sur une année qui est très particulière, et heureusement que les gens ont envie d'aller dans la nature, ont envie de se ressourcer, de profiter de tous ces bienfaits. Et je pense que les Calanques n'est pas le seul territoire où il y a cette problématique. Hein. C'est des choses qu'on a retrouvées un peu partout en France. Les espaces naturels ont été pris d'assaut, et d'une certaine manière, c'est tant mieux, parce que les gens ont besoin de nature. Et maintenant, il va falloir essayer de faire en sorte que tout ça se soit fait en bonne entente et en bonne intelligence.
Voilà, donc on regarde, s'il vous plaît, où on met les pieds. Hein, même si, faut le préciser quand même, c'est pas toujours fait exprès. Les gens font pas forcément attention aux plantes qu'il y a sous leurs pieds, ils les connaissent pas. Et puis alors franchement, si on est prêt à faire la queue pour se baigner, bah, on en profite, hein, pour réfléchir pendant ce temps à cette absurdité. En n'oubliant pas de regarder le paysage, préserver, on l'espère, le plus longtemps possible.
Et c'est Camille Passauvert que vous pouvez bien sûr écouter sur franceinter.fr. Dans un instant, retour sur la planète Vénus avec vos questions et vos messages sur l'application France Inter par exemple.
Je suis tellement loin, c'est parti pour quelques heures, écrire sur le monde, exilé dans simulateur, près des couleurs, trop sable en mouvement, foncer, trop près c'est de plus penser, cerveau danse, donc qu'à débrancher, sans te défense, plus rien de sensé, sort dans ma tête de bouger, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok, trop de tes questions brusques, beaucoup de pression, muscle, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, balle, oppression à ta restriction, blague, tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le pire en face, pas le prendre. Je te demande un minimum de respect, je calme mes nerfs, joie VER, tango, je balance des bras sur une compo. Je calme mes nerfs, j'en vais tango. Je balance des bras sur une compo. Moro. Moro. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel, qu'on fuit de rien de terre. Donne-moi ton père, que je t'appelle et ramène à l'hôtel. Cherche l'amour, va la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines, mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour, on est au bord, se permet, tu te déports. S'il le faut, tu le fais, il est faux, tu le sais. Illico, tu le fais, silicone dans la fesse, unicone dans la presse. Une miche-toi dans la tête, jamais seul, tu t'en sortiras. Il reste une place dans le corps, hier. J'écris sur tout ce que je pense, et j'écris sur tout et son corps, hier. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, dans mon douce, à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vie que tu me suis. Compte sur mes économies, t'es ma p*** pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise, père. Bientôt j'abandonne le vice, c'est pas loin. J'prends vice et mer. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois VER, tango. J'balance des bras sur une compo. Moro.
Moro, c'était Damso à l'instant.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard, sur France Inter.
Il y a d'abord le moment un peu spectaculaire, l'arrivée donc près de la planète Vénus, et puis ensuite il y a des milliers, des millions, je dirais même des milliards de données qui sont recueillies que patiemment, calmement, tranquillement, les scientifiques dépouillent dans les différents laboratoires. Il faudra maintenant des mois, sinon des années, pour tout dépouiller et comparer ces données à ce qui avait été fait précédemment et préparer les prochaines expériences. Donc je dirais que toutes ces données, c'est un peu, on augmente le trésor de nos connaissances scientifiques, c'est un trésor dans lequel puisent les scientifiques pour mieux comprendre eh bien, ce que c'est que cette planète un peu jumelle, un peu sœur de nous qu'est Vénus, à la fois sœur et à la fois si différente.
Voilà, 1985 avec la sonde Vega 2, mission franco-soviétique avec la voix de l'astrophysicien André Braik, donc il parle de milliers, de milliards de données recueillies. Est-ce qu'on a tout dépiauté depuis Alice Le Gall ou pas?
Alors là,
ou est-ce qu'on cherche encore à avoir des informations sur cette récolte? Est-ce que vous le savez ou pas?
Alors, je n'ai jamais été impliqué vraiment sur les données de la mission Vega, mais c'est sûr qu'à chaque mission spatiale, il y a des tonnes d'archives qui sont accumulées, qui sont finalement peu exploitées ou sous-exploitées. Et c'est d'ailleurs extrêmement dommage parce que l'expertise de première main sur ces données, de celles des équipes qui ont construit les instruments, qui les ont fait marcher la première fois, a tendance à se perdre assez vite finalement avec les aléas de la vie, on va dire. Et donc on se retrouve, là c'est même le cas pour des missions, notamment les missions martiennes pour le coup, c'est des missions vikings, où il y a des tonnes de données qui sont maintenant, on ne comprend même plus la façon dont le fichier informatique a été écrit.
Ah oui,
le fichier est là et on ne sait plus le décrypter.
Ouais. Alice Le Gall, Joël vous demande à quoi ressemble la surface de Vénus. Vous parliez de montagnes, mais il y a aussi des volcans, dit Joël. Savons-nous s'ils sont actifs?
Oui, effectivement. Donc de la surface de Vénus, on a une carte globale grâce au radar de la sonde Magellan, donc avec une résolution d'au mieux 100 mètres. Et puis quelques images très locales d'atterrisseurs qui se sont posés à la surface. Et ce qu'on voit déjà avant les volcans, on voit surtout des plaines.
Ouais.
75% de la surface de Vénus, ce sont des plaines a priori basaltiques, volcaniques. Et à côté de ces plaines, on a des hauts plateaux qui ont l'air plus érodés, plus vieux géologiquement, avec des rides, des fractures. Et un peu partout, effectivement, des volcans. Je crois qu'on dénombre aujourd'hui près de 2000 volcans de tout type de morphologie. On a des volcans boucliers, un peu comme ceux qu'on trouve à Hawaï. On a des cônes pyroclastiques. On a des volcans un peu plus exotiques qui sont un sommet très plat, des flancs très, très abrupts qui font penser un peu, on les appelle les volcans pancake. Et on pense que ces volcans, ou certains d'entre eux en tout cas, sont actifs.
Donc il y aurait des éruptions.
Et qu'il y aurait des éruptions, des coulées de lave, des épanchements, même une émission de gaz volcanique dans l'atmosphère, qu'on espère pouvoir détecter en partie grâce à l'instrument d'Emmanuel Marc sur Envision. Donc, mais à ce jour, on a des indices, un faisceau d'indices qui nous permettent de dire qu'il y aurait un volcanisme contemporain sur Vénus, mais on n'a pas encore la preuve irréfutable. Ouais. Et c'est ce que ces trois missions, notamment la mission Veritas et la mission Envision, vont aller chercher.
Donc il y aura beaucoup de choses sur le sol vénusien?
Exactement. Donc le sol vénusien, je le disais, en fait, on ne l'a pas vraiment regardé depuis la fin de la mission Magellan, donc c'était en 94, donc ça fait 25 ans. Et là, on va retourner le voir, mais avec une résolution évidemment accrue. Entre-temps, la technique radar s'est perfectionnée, les moyens de traitement aussi des données à bord se sont perfectionnés. Donc on va pouvoir cartographier de nouveau la surface de Vénus, mais avec une résolution de 30 mètres, et voire même dans certaines régions de l'ordre de 10 mètres. Donc c'est un saut qu'on va faire. Et on va chercher en particulier des traces de volcanisme actif contemporain. Donc ça peut être des traces morphologiques, en cherchant des changements dans les images. Est-ce que, voilà, entre un moment où il n'y a pas eu de coulée de lave, un moment où il y a eu de coulée de lave. On va chercher des indices thermiques aussi. On va pouvoir mesurer de différentes façons la température à la surface de Vénus et éventuellement identifier des points chauds. Mmh. Et puis on va chercher des indices de volcanisme dans l'atmosphère. Voilà, sous forme d'épanache, une variation de dioxyde de soufre, quelque chose qui pourrait nous dire qu'il y a eu une émission de gaz volcanique à la surface.
Emmanuel Marc, ça me demande, est-ce qu'on pourrait envoyer des astronautes sur Vénus?
Alors oui, ce serait relativement facile dans une zone de l'atmosphère, pas à la surface.
Oui, dans l'atmosphère, alors,
voilà.
Pas à la surface.
Dans l'atmosphère, pas à la surface. La surface est effectivement extrêmement hostile, mais du fait, voilà, Alice Le Gall avait rappelé que la pression atmosphérique de Vénus est équivalent à celle qu'on a sous à peu près un kilomètre de profondeur dans les océans terrestres. Donc, faire une expédition à la surface de Vénus, c'est quelque part aussi difficile qu'envoyer un sous-marin sur le fond de l'océan terrestre. Il y a des difficultés semblables qui apparaissent. En revanche, quand on monte en altitude, à la fois la pression diminue et la température décroît. Et il y a une zone comme ça, vers 50 km d'altitude environ, où la pression, la température sont extrêmement similaires aux conditions qu'on a sur Terre. Et c'est probablement là l'environnement du système solaire le plus semblable aux conditions terrestres.
On pourrait faire des sorties extravéhiculaires comme Thomas Pesquet a fait il n'y a pas longtemps.
En dehors d'un dirigeable ou d'un ballon. Il aurait juste besoin d'une combinaison étanche. Là, c'est important parce que les nuages qui sont présents à cette hauteur, à cette altitude-là, sont constitués en grande majorité des acides sulfuriques.
Ouais. Et donc, beaucoup de dioxyde de carbone aussi.
Dans l'atmosphère, oui. Alors, ça a un avantage pour la flottabilité, c'est que le dioxyde de carbone est un gaz très lourd, et donc il suffit d'emporter sa réserve d'air respirable, et elle se met à flotter dans un ballon, de la même façon que l'hélium flotte dans l'atmosphère terrestre.
Il n'y a pas de mission humaine pour l'instant prévue. Hein.
C'est pas prévu.
Ouais. Mais l'idée est
L'idée existe, des idées de dirigeables à longue durée de vie dans les nuages de Vénus, pour justement explorer cet environnement relativement clément de plus près, est une idée qui récurrente, on va dire. Voilà.
Bonjour Anaël Verzo.
Bonjour Mathieu, bonjour
à tous. Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de votre reportage dans la Meuse. Et aujourd'hui, vous nous emmenez à Bar-le-Duc.
Exactement, où du 1er au 3 juin, 7 opposants au projet d'enfouissement des déchets radioactifs comparaissaient devant le tribunal correctionnel pour association de malfaiteurs. Ils étaient accusés notamment d'avoir tenté d'incendier l'hôtel-restaurant situé juste à côté du laboratoire de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, et d'avoir participé à une manifestation commémorative le 15 août 2017. Alors, pendant les 3 jours d'audience, un grand rassemblement de soutien était prévu devant le tribunal à Bar-le-Duc.
À l'occasion de l'ouverture du procès des opposants de Bure, plusieurs centaines de personnes venues de la France entière se sont mobilisées dans la cité des Ducs.
Bar-le-Duc, ça grimpe. Hein. Je suis à pied, je me dirige vers le tribunal de grande instance. Place Saint-Pierre.
C'est un procès très attendu, celui des opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure.
Alors mon GPS me fait prendre des toutes petites rues qui montent à, voilà, Place Saint-Pierre. Et alors là, il y a du monde sur la place, au soleil. Alors il y a des tentes qui ont été disposées. Il y a des jeux qui se font là, visiblement. Il y a un panneau, Bure stop, nucléaire, non merci. Il y a plusieurs centaines de personnes qui sont rassemblées sur cette place. Il y a Greenpeace, Amnesty International, Bure stop, le collectif. Voilà le palais de justice. Et là j'attends Jean-Pierre Simon, qui est un militant de longue date ici. Et Jean-Pierre, c'est un agriculteur du coin. Ah le voilà. Bonjour.
Simon.
Jean-Pierre, Anaël.
Bonjour.
Ça va ?
Ouais.
Déchets nucléaires, voie sans issue. Ouais. Pour vous, le stockage en géologique en profondeur, le problème c'est quoi ? C'est dangereux, c'est...
Le problème déjà, si on était capable d'activer la réversibilité, on pourrait encore un peu le soutenir. Bon là, même si c'est resté encore dans les textes, on voit bien que c'est la réversibilité, on fait une croix dessus. Donc c'est pour ça. Bon, maintenant on est fort aussi des expériences qui ont eu lieu dans le monde et notamment aux États-Unis avec l'accident du WIPP.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Eh bien, donc aux États-Unis où ils ont beaucoup plus, ils ont aussi préparé des galeries pour enfouir en profondeur et en fait ils ont commencé à enfouir et il y a eu une explosion dans les galeries et à tel point qu'ils ont été obligés de fermer le site et donc de ne plus continuer à enfouir. Donc ça veut dire que c'est un échec total.
Il y a eu une explosion au milieu des déchets radioactifs ?
Oui, il y a eu une explosion en profondeur.
Dans le désert de sel du Nouveau-Mexique, des barils de déchets nucléaires militaires sont enfouis depuis 1999. Mais en 2014, c'est l'accident. Des réactions chimiques imprévues ont fait exploser des fûts. 21 ouvriers sont contaminés, ainsi que toute l'installation souterraine.
En Allemagne aussi, il y a eu un accident similaire. Dans les années 60, les Allemands ont entreposé 126 000 fûts de déchets radioactifs sous terre.
Et l'eau s'infiltre sur toute l'installation.
Et c'est dangereux ?
L'eau est contaminée. Il ne faut pas qu'elle s'échappe dans la biosphère.
Et Corinne, vous, ça fait combien de temps que vous militez ici ?
Et j'ai commencé à m'intéresser à ce projet en 1994. Donc ça fait déjà presque 30, hein, c'est ça ? Ouais, ça fait... Il y a une relève jeune, là, actuellement.
Qui danse pour le moment sur la place.
C'est ça, qui danse sous la pluie. Ça fait un peu science-fiction, ce projet, quand même. Hein. Le projet CIGEO, c'est apporter la totalité et quasiment de la radioactivité produite depuis plusieurs décennies, depuis qu'on a commencé à faire de l'électricité. Après, effectivement, les déchets existants, il faudra bien en faire quelque chose. Nous, on dit qu'il faut impérativement arrêter d'en produire. Nous, ça fait 20 ans qu'on se mobilise ici. Depuis le départ, on a dit on ne sait pas quoi en faire, ce n'est pas possible. Si on les enfouit, ça ne fonctionnera pas. Donc pourquoi on n'a pas arrêté, quoi ? Quelle filière industrielle aujourd'hui peut fonctionner pendant plusieurs décennies en produisant des déchets et sans avoir prouvé que l'aval de son cycle, il est résolu ? C'est-à-dire qu'elle sait quoi faire de ses déchets. Ça n'existe pas, ça. Et il faut qu'on puisse choisir un autre avenir, parce que sinon... La terre, elle est déjà. Enfin voilà, c'est l'environnement est déjà bien, bien mis en péril. Faut pas aggraver la, faut pas charger la barque en plus. Hein.
Comme là des gendarmes.
Oui.
Pendant qu'on parle, en fait, régulièrement, il y a des gendarmes qui passent, qui sourient, qui repassent dans le chemin. Ils vous font des sourires. Hein.
Oui, ils ont fait des sourires. Alors, bah, ils doivent bien s'enquiquiner. Ils ont pris la flotte. Ouais. Les pauvres.
Ils profitent un peu du rayon de soleil.
Voilà là, pour se sécher.
L'ambiance était plutôt bonne à Bar-le-Duc, Annaëlle Verzo.
Oui, c'est sûr. Mais bon, pendant ce temps-là, à l'intérieur du tribunal, c'était pas vraiment la même ambiance pour les 7 prévenus.
On écoutera la suite demain avec votre troisième reportage. Merci beaucoup.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Des...
Clip, crack,
des...
Bang,
des...
Bang,
et des...
Zip, shabam.
Les swings et les uppercuts, ça fait,
Vlam,
ça fait,
splash,
et ça fait,
ch'top,
ou bien,
bang,
ou parfois même,
tchabam, pow, blow,
viens, petite fille, dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des,
whip,
des,
clip, crack,
des,
bang,
des,
blow,
et des,
zip, tchabam, pow, blow.
Par-dessus le building, ça fait
wind.
Quand on s'envole et puis
cling.
Après quoi je fais
tilt.
Et ça fait
boing, shabam.
Trip de Serge Gainsbourg. Allez, encore quelques minutes avec nos invités Emmanuel Marc et Alice Le Gall dans la Terre au Carré pour parler de la planète Vénus, parce qu'il y a beaucoup de missions qui se préparent pour les années à venir. Avec les questions des auditeurs, Géraud nous dit, vous évoquiez tout à l'heure l'eau sur Vénus au début de sa formation, mais où est passé ce surplus d'eau, Emmanuel Marc?
Alors ce surplus d'eau, en fait, est très fragile lorsqu'il est exposé aux rayons du soleil.
Ouais.
Les molécules d'eau peuvent se casser facilement et donc se dissocient en leurs atomes constitutifs que sont l'hydrogène et l'oxygène. Et l'hydrogène, qui est l'atome le plus léger, s'échappe extrêmement facilement des planètes relativement petites comme la Terre ou Vénus. Donc une fois l'hydrogène parti, l'eau ne peut plus se reconstituer.
Ouais.
Et les atomes d'oxygène qui restent, eux, sont extrêmement réactifs et oxydent en fait un petit peu tout.
Donc il n'y a pas de molécules d'eau qui flottent
Non, non, elles sont parties dans l'espace interplanétaire,
ouais,
et sous forme d'atomes en fait.
Alice Le Gall, quel est l'intérêt au fond aller de lancer toutes ces missions-là pour les années qui viennent?
Oui, on a déjà parlé de l'intérêt, notamment de comprendre pourquoi l'effet de serre s'est emballé sur Vénus, pour,
oui,
comprendre si la Terre pouvait risquer de connaître le même destin. Il y a un autre intérêt qui est lié aux exoplanètes. Donc, on découvre, j'allais dire quasiment tous les jours, de nouvelles exoplanètes, donc des planètes qui tournent
de notre système solaire,
autour d'autres étoiles. Voilà. Parmi ces exoplanètes, certaines sont dites telluriques, c'est-à-dire qu'elles ont en gros la même masse que la Terre, la même taille, et puis elles sont à peu près à la même distance de leur étoile. Et donc on a tendance à les qualifier très rapidement d'habitables, c'est-à-dire pouvant accueillir, abriter, en tout cas de l'eau liquide, peut-être une forme de vie. Et en fait, on se rend compte que ce sont peut-être pas des exotères, ce sont peut-être des exo-Vénus, donc des endroits tout à fait inhospitaliers. Donc en comprenant ce qui s'est passé encore une fois sur Vénus, peut-être qu'on arrivera à discriminer mieux parmi ces planètes, ces exoplanètes telluriques, celles qui sont des exodunes, de celles qui sont des exo-Vénus.
Ouais. Et donc Emmanuel Marc, encore quelques années de patience avant de voir votre instrument sur lequel vous bossez partir dans le ciel vénusien.
Effectivement, 10 ans de développement, puis après le décollage, et encore 5 ans avant le début de la phase d'opération de mission. C'est vraiment, on est sur quelque chose d'extrêmement long terme, mais le spatial fonctionne comme ça.
Voilà, c'est donc la mission Envision pour les Européens, et puis les deux autres missions américaines qui sont tout à fait complémentaires aussi, voilà. Pour essayer d'en savoir plus sur Vénus.
Exactement.
Merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus. Merci pour ce voyage tout à fait passionnant et j'espère vous retrouver à une autre occasion pour parler des nouveautés vénusiennes. On termine comme tous les mardis avec la chronique de reporter.
France Inter, la Terre au carré.
Bonjour Lauriane Cholez.
Bonjour Mathieu.
Alors pour reporter, vous êtes allé sur le plateau de Saclay, c'est dans le sud de Paris, où se trouvent de nombreuses universités, mais aussi des terres agricoles, terres menacées par la construction de la ligne 18 du futur métro du Grand Paris Express. Alors racontez-nous ce qui se passe exactement là-bas.
Alors Mathieu, bienvenue à Saclay. Cela fait maintenant un mois que le collectif Non à la ligne 18 occupe un champ afin de protester contre la construction de cette ligne de métro. Alors, ils sont plutôt bien installés. C'est un vrai petit village de palettes, avec une cuisine, des plantations de légumes, un dortoir avec des lits en paille, un camping avec des tentes, des toilettes, et il y a même une salle de bain. Ces militants sont visiblement partis pour rester longtemps, et c'est d'autant plus facile pour eux, parce qu'ils occupent légalement le terrain que leur prête un couple d'agriculteurs, dont les champs vont être balafrés par le passage de cette future ligne 18. Ils ne risquent donc pas l'expulsion policière, et rechignent du coup à utiliser le mot ZAD. Mais cela n'empêche pas beaucoup de monde de surnommer ce campement Saclay.
Alors s'opposer à des transports en commun, Lauriane, est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec le combat écologiste ?
Bien sûr, ce n'est pas forcément évident au premier abord. Certains militants disent d'ailleurs que c'était beaucoup plus facile de s'opposer au centre commercial Europa City à Gonesse, dans le nord de Paris, et beaucoup d'entre eux sont passés là-bas pour militer. Mais très concrètement, lorsqu'ils vont tracter dans les marchés des villes concernées par cette ligne 18, personne ne leur jette des tomates pourries. Au contraire, ils seraient même plutôt bien accueillis et les gens les féliciteraient même de se battre pour un projet qu'ils estiment trop coûteux, réalisé sans concertation et surtout qui ne répondrait pas aux problématiques de transport des habitants.
Ce qui fait qu'on va créer une ligne de métro qui ne servira à rien ?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On peut distinguer deux parties dans la ligne 18. La première, qui se trouve à l'est du plateau. Elle desservira un bon nombre d'universités, comme l'école polytechnique ou encore le CEA et divers centres de recherche. Car c'est ici que le gouvernement veut créer une sorte de Silicon Valley à la française, en rassemblant plein d'écoles d'ingénieurs et des start-up. Mais pour l'instant, c'est très compliqué d'accéder à ce plateau en transport en commun. L'affaire se corse après ces universités, à l'ouest du plateau, lorsque la ligne 18 doit traverser des champs cultivés. J'ai d'ailleurs contacté Cédric Villani, qui est le député local en Essonne, et lui-même avoue que cette partie ouest mériterait encore d'être discutée, car les réunions de concertation n'ont réussi à rassurer personne.
Pourtant, le plateau de Saclay est normalement préservé par une zone de protection agricole, naturelle et forestière qui s'appelle le ZPNAF.
Oui, c'est vrai Mathieu, mais les militants craignent que ce statut de ZPNAF ne soit pas assez protecteur face aux promoteurs immobiliers qui sont les grands gagnants dans cette affaire. Et il faut rappeler qu'une quinzaine d'exploitations agricoles se trouvent sur ce plateau de 5000 hectares. Et ces exploitations approvisionnent aujourd'hui 20 000 personnes en fruits et légumes. Et dans une période où on promet de relocaliser la production maraîchère en Île-de-France, il faudrait peut-être réfléchir à deux fois avant de bétonner des terres cultivées.
Merci beaucoup Lauriane Cholez, on retrouve votre enquête, bien sûr, sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. On se dit à très bientôt. Au revoir.
Merci Mathieu, à bientôt.